Vous écoutez Bac FM, il est 18h30 et mon dernier invité de cette semaine est à l'occasion d'une émission de job. Je reçois Benjamin Verduron, il est architecte d'intérieur et il est mon invité pour parler de son parcours et de ses différentes expériences. Il apportera également lors de cet entretien un regard jeune et moderne d'un milieu où la création est essentielle. Écoutez. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Tu es architecte artisan.
C'est ça.
Et tu es mon invité aujourd'hui, non pas pour parler seulement de ce qu'est être architecte artisan, mais pour parler de ton parcours atypique, parce que on va voyager même à travers ton parcours. On va aller au-delà de la France, là où tu es allé et où tu vas retourner d'ailleurs bientôt.
C'est
je
ça.
Crois,
on va essayer.
Pour continuer un projet. On va commencer du tout début. Alors, ton parcours, du moins scolaire et professionnel, pour en arriver là. Avant tout, déjà, qu'est-ce que ça veut dire être architecte artisan ?
Juste pour clarifier deux, trois petits trucs, je suis architecte d'intérieur, donc pas architecte maître d'œuvre.
D'accord.
C'est encore une autre différence, ouais. Mais aujourd'hui, être architecte artisan, c'est des architectes, on va dire, architectes d'intérieur, architectes en maîtrise d'ouvrage, qui ont voulu apprendre un métier manuel ou qui ont à la fois leur boîte d'architecture et à la fois une entreprise dans le bâtiment,
ouais.
Afin de mieux connaître tous les enjeux et tous les acteurs du bâtiment. Parce qu'on s'est rendu compte souvent que certains architectes se faisaient souvent emmener en bateau pour les entreprises, parce qu'il y a une grosse différence entre ce qu'on apprend à l'école,
ouais,
et la réalité du terrain.
Ouais. C'est ce que toi, tu t'es tout de suite rendu compte de ça que...
Ouais. Bah, mon père m'a dit une phrase très juste à l'époque, il m'a dit... avant de dire à quelqu'un qui ne sait pas planter un clou, il faut que tu sois capable de lui montrer comment on fait. Parce que j'ai toujours voulu être dans l'architecture. Et du coup, en fait, cette phrase, elle a un peu résonné en moi. Et je me suis dit, ouais, il a raison, en fait.
Comment tu as compris, enfant, que tu voulais être dans l'architecture ? Parce que j'imagine qu'à 10 ans, tu ne peux pas te dire, tiens, je veux être architecte.
Non. Mais moi, je voulais être pilote de chasse, de base.
D'accord.
Je voulais être pilote de chasse. Après, je voulais aller dans la photo. Et au final, tu vois, j'ai rien fait de tout ça.
Il y a un côté quand même photogénique, peut-être, quand on est architecte. Il faut se projeter,
ouais.
Il faut faire une photo du projet final.
Bah ouais, il faut surtout, quand on arrive dans un espace vide ou un espace entièrement à refaire, il faut réussir à se projeter totalement et imaginer ce que les gens n'arrivent pas à imaginer. C'est pour ça qu'on est payé, entre guillemets.
Ouais, bien sûr.
Et réussir à se dire, ça a du potentiel parce que... Et comment on fait pour encore plus augmenter ce potentiel, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et donc oui, il faut une certaine vision de l'espace, savoir se projeter un petit peu. En fait, au tout début, je pense pas que j'étais... Je me suis dit, tiens, je vais être architecte pur et dur, parce que c'est pas des métiers qu'on connaît réellement quand on est petit. On veut être pompier, pilote de Formule 1, parce qu'on voit ça, c'est des métiers... dans l'imaginaire d'un enfant qui sont simples à visualiser,
ouais,
on va dire.
Ouais. Et qu'on voit plus souvent à la télé,
oui,
aussi.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Et non, moi, à l'époque, je sais que je voulais faire partie des acteurs du bâtiment. Je ne savais pas encore exactement où. Après, ça s'est affiné. Et ensuite, quand mon père m'a dit ça, j'ai dit, OK, donc on va apprendre un métier avant. Et alors là, c'était quel métier on apprend ? Parce que là, il y avait tellement d'acteurs dans le bâtiment...
Tes parents sont issus du bâtiment ou pas du tout ?
Pas du tout. Ma maman est secrétaire à la médecine du travail.
D'accord.
Et mon papa est cadre au circuit de Nevers-Manicourt. Il y travaille depuis des années. Je pense que quand je suis né, il était déjà là-haut.
D'accord, ah oui. Donc,
il est arrivé tout juste. Quoi,
donc, mais, rien à voir finalement avec ta profession à toi.
Non, totalement.
Ils sont en train de remonter un hôtel à côté de Manicourt. Peut-être que tu vas en faire partie, à savoir.
J'aimerais bien, mais tu sais, c'est toujours compliqué.
Ouais.
C'est des métiers où il faut beaucoup de réseaux. Ou aussi ça marche à la confiance. Et moi, tu vois, j'ai eu... Parce que la boîte va avoir un an bientôt, dans quelques semaines. Et j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont fait confiance dès le début.
Ouais.
Parce que...
C'est le plus dur, c'est de réussir à faire gagner sa confiance après ça.
Ouais. Parce qu'en fait, quand tu commences, tes projets, ça va être que des projets fictifs ou des plans. Parce que tu vois, là aujourd'hui, je suis allé visiter un chantier pour une cliente à Arcy-sur-Cure, à côté d'Auxerre.
Oui.
C'est pour refaire une cuisine.
Okay.
Ça fait 6 mois qu'on travaille dessus. Et là, la cuisine va être posée courant juillet.
D'accord.
Et nous...
c'est un travail de presque un an, finalement.
C'est ça. Et le temps qu'on communique dessus, parce que c'est un très, très beau projet, des très beaux matériaux, ça va être très, très cool. Donc, le temps de réunir l'équipe de vidéastes, qu'on fasse le montage, qu'on communique dessus, ça va être communiqué à partir de septembre-octobre.
Ouais.
Donc, en fait, ouais, comme tu dis, c'est passé un an. Et donc, en fait, pendant cette période-là d'un an, tu peux pas ne pas travailler.
Ouais.
Donc, il faut que tu trouves des gens. Et les gens, ils te font confiance par les plans qu'ils ont vus. Mmh. Parce qu'ils n'ont pas encore vu le travail fini.
Le travail final, ouais, bien sûr.
Donc, le plus dur, c'est comme quand tu crées n'importe quelle boîte, c'est le début, quoi.
J'aimerais qu'on se recentre un petit peu à tes études. Ouais. Donc, tu as passé ton bac ici à Nevers.
C'est ça.
Après, tu te diriges vers la couverture.
Alors, ça sera à refaire. J'aurais pas choisi ce métier. Mais à l'époque, donc c'était il y a 8 ans, le métier de couvreur était un des métiers les plus polyvalents dans le monde du bâtiment. Aujourd'hui, ça sera à refaire. Je pense que je me serais retourné vers la charpente plutôt. Mais du coup, non, je suis parti en tant que couvreur aux Compagnons du Devoir.
Ouais. C'est cette expérience-là qui est intéressante, hein, les Compagnons du Devoir. J'aimerais bien qu'on axe un petit peu un moment de cette interview là-dessus sur les Compagnons du Devoir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent les Compagnons du Devoir de nom, mais qui ne s'imaginent pas forcément la complexité qu'il y a pour entrer aux Compagnons du Devoir, la difficulté qu'il y a pour y rester,
c'est,
et l'assiduité qu'il faut aussi pour montrer qu'on vaut le coup d'être ici.
C'est ça. Bah, en fait, pour faire simple, je vais dire une phrase que je disais déjà il y a 8 ans. C'est qu'aujourd'hui, tous les influenceurs, ils vendent du rêve aux jeunes en voyageant et en étant payés. Bah, aux Compagnons, tu fais exactement ça. Parce qu'en fait, ton métier est axé autour du voyage. Donc forcément, tu exerces ton métier, donc tu es payé. Et en fait, tu voyages tous les 6 mois, on va dire, 6-7 mois environ. Tu changes de ville, tu changes de région.
Ouais.
Alors, tu as un choix. On te propose de choisir entre 3 villes différentes. Des fois t'as du bol et tu tombes dans une de ces 3 villes et des fois s'il n'y a pas assez de demandes ou trop de demandes, on t'envoie dans d'autres villes.
Toujours dans le rôle de couverture là,
c'est
à ce moment-là. Et c'est intéressant d'avoir fait plusieurs domaines, enfin différents lieux en France, différentes régions, parce que la couverture change en plus selon les régions françaises.
Elle change totalement.
Quand on va en Bretagne, quand on va en Alsace, quand on va dans le sud, c'est...
C'est ça. Et l'avantage en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, un jeune... qui deviennent compagnons ou non, mais un jeune qui passe par chez nous et qui voyage quelques années avec nous, va voir plus de techniques dans son métier que s'il restait 20 ans dans la même boîte ou quoi. Il ne sera pas meilleur, hein, loin de là. Ce n'est pas parce qu'on est issu du compagnonnage qu'on est meilleur qu'un autre ou pas. Après, ça joue tout au mental
et
à comment tu as envie de travailler. Mais tu vois plus de choses, tu découvres plus de choses, plus de régions, plus de personnes. Et il faut pas oublier que tu vis dans une coloc de 70 personnes. Quoi.
C'est ça, parce que au-delà d'un aspect professionnel, parce que donc tu obtiens un CAP couverture, une mention de zingri, un brevet professionnel, qu'est-ce que tu as apporté humainement les Compagnons, j'imagine que ce que tu vas rechercher, même si tu t'y attends pas, c'est le côté très humain aussi.
Ouais, c'est surtout ça avant tout. Bah, humainement, c'est beaucoup l'entraide, parce que tu as des jeunes qui sont issus de toute la France, de pas mal de pays d'Europe. Et pour la plupart, alors moi je suis arrivé aux Compagnons après mon bac, donc c'est-à-dire que j'avais déjà 18 ans. On a pas mal de jeunes qui arrivent aux Compagnons à 16 ans. Donc en fait, c'est beaucoup d'entraide parce que la plupart des jeunes, bah, ils quittent le foyer, ils arrivent dans une ville qu'ils connaissent pas, des fois loin de chez eux. Et donc du coup, t'es avec beaucoup de jeunes, mais t'as quand même cette rigueur de « on doit être encadré ». Parce que sinon, ça devient la débandade.
Mais il y a une ambiance très militaire hein, aux Compagnons.
Non, je dirais pas militaire. En fait, c'est pas une ambiance... Les gens associent ça à une ambiance militaire parce que aujourd'hui, on a un peu perdu ce sens de la rigueur, que ça soit au travail ou dans ta vie perso.
Ouais, bien sûr.
Et donc, en fait, quand t'es aux Compagnons, nous, par exemple... au sein des Compagnons, quand tu es dans une maison compagnonique, dans des CFA de Compagnons et tout ça, le monde extérieur, on a encore certains vieux langages là-dessus, on appelle ça la cité.
Ouais.
Et en fait, aux Compagnons, on te dit qu'on te prépare à une ouverture sur la cité, à comment tu vas préparer ta vie perso après. Parce que, en fait, c'est un peu comme, comme quelqu'un qui est à l'armée, parce qu'il est accompagné, il a des gens autour de lui, on est tous là pour s'aider, parce qu'on fait partie du même truc. Mais comment tu fais après, quand tu pars, quand tu as fini, que tu as une femme, un copain, des enfants, comment tu fais tout ça, tu vois, comment tu gères tout ça? Et on t'apprend à gérer tout ça par ton travail et par avoir les bons us et coutumes en société. Donc, en fait, c'est pas strict, c'est pas tout ça, hein, loin de là. Mais c'est, voilà, on t'apprend à bien te tenir, à bien agir. Et surtout, nous, on a une devise qui est une des devises, parce qu'on en a plusieurs, qui pour moi est un peu ma ligne conductrice dans ma vie. C'est ni s'asservir, ni se servir, mais servir.
Ouais, mais c'est vrai.
Et en fait, tu te rends compte que quand tu fais ça un peu tout au long de ta vie, t'es bien, quoi. T'es tranquille et tu sais que t'essaies de faire toujours du bien autour de toi.
Cet esprit compagnon, tu l'as gardé ?
Oui. Moi, aujourd'hui, je suis situé du côté de Bourges. On a une maison de compagnon à Bourges qui est dans un foyer de jeunes travailleurs à Bourges. Moi, toutes les semaines, j'y vais, je vais voir les jeunes. Alors, on n'a pas de couvreur à Bourges, mais je vais voir les jeunes des autres métiers. Je suis un peu. Je fais partie de ce qu'on appelle l'équipe d'accompagnement. On est un peu une figure proche pour eux. Parce que, comme je
disais,
ils
sont loin de leur famille, profession, et tout ça. Le professorat et.
C'est ça. Et on fait un lien parce que des fois, c'est comme tout. Ils ont des coups durs, ils sont loin de leur famille, ils ont des problèmes familiaux, ils ne peuvent pas rentrer tout de suite. Comme tout, des fois, tu vois, moi, là, pendant 2 mois, j'ai prêté une voiture à moi, à des jeunes, parce que la voiture était cassée et tout ça. Tu vois, il y a toujours ce lien d'entraide, on est là pour vous aider. Donc, ok, tu arrives dans une nouvelle ville, mais tu n'es pas seul. Il y aura toujours quelqu'un avec toi pour t'aider.
Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce passage au compagnon, finalement, si tu devais faire un bilan en quelques phrases de ce passage là-bas ?
Je pense que c'est ça, c'est l'entraide, le travail, le dépassement de soi. Parce que oui, c'est vrai qu'on travaille énormément, mais en fait, on travaille dans quelque chose qui est notre passion. Donc en fait, c'est pas réellement le travail. C'est comme là, toi, tu m'interviews. Pour toi, c'est un travail, mais tu ne considères pas ça comme un travail, c'est ta passion, tu vois. Donc oui, c'est ça, c'est se dépasser et se dire jusqu'où je peux aller, quoi. Jusqu'où je suis capable d'aller. Moi, tu vois, je me souviens, ma première ville où je suis arrivé à Brest, j'ai fait un rhinocéros tout en cuivre, qui fait 2 mètres par 1 mètre, donc à l'échelle 1,5. Et dessus, j'ai bossé entre 5 et 700 heures de travail, tu vois.
Pourquoi t'as fait ça ?
Pour le fun.
D'accord. Non, il y en a pour le fun, ça, ils vont à la pêche, ils vont faire une pétanque, toi tu fais un rhinocéros d'un mètre sur deux, quoi.
C'est parce que je me suis dit, on peut faire de l'art dans notre métier. Est-ce que je suis capable de sortir ça ?
D'accord.
Sachant qu'à côté, j'avais les cours, j'avais le travail. Et ouais, je te dis, c'est juste le dépassement de soi. C'est comme un mec qui va faire un triathlon.
À Nantes, il y a des animaux en cuivre.
Ouais, si c'est dans les ateliers de Nantes, ouais.
Qui sont disponibles à la vue
de
chacun.
Ils en ont plein, ouais. Alors ça, je pense pas que c'est une assoce, mais c'est une boîte qui gère ça. Ouais. Mais non, c'est vraiment le dépassement de soi et de se dire, ok, est-ce que je peux le faire ? Et tu le fais et tu te dis, j'ai réussi, quoi.
C'est à ce moment-là où en même temps tu passes un dust ?
C'est après. Ça, à ce moment-là, je passais ma mention complémentaire en zingerie.
D'accord.
Et après, je suis parti en brevet professionnel, en BP. Et ensuite, à la fin de mon BP, j'ai dit, ok, j'ai appris, entre guillemets, 95% des choses qu'on pouvait apprendre dans le métier, parce que de toute façon, il y en a toujours qui reviennent, des choses, des nouveautés, quoi.
Bien sûr.
Donc après,
c'est important de suivre le cours.
Mettre à jour, ouais. Et je me suis dit, écoute, maintenant. On se lance et on retourne vers l'architecture. Et ce qui est bien, c'est que j'ai travaillé avec beaucoup d'architectes en tant que couvreur, donc joaillier. Et je me suis dit, en fait, architecte, maître d'œuvre, je ne sais pas si c'est vraiment ça qui me plaît. Parce qu'on ne dirait pas, mais c'est énormément de contraintes, énormément de pression. Aujourd'hui, je ne connais pas un architecte qui n'a pas un procès aux fesses. Parce que tu as beau tout faire bien comme il faut, tu as tellement d'acteurs qui sont autour, tellement de tout ça. Que quand tu fais un bâtiment de 2000 mètres carrés, tu peux pas tout prévoir.
Ouais, puis il y a des retards que tu peux pas prévoir, comme tu dis,
t'as plein de choses,
des problèmes de construction qui viennent changer tout ton plan.
C'est énormément de pression. Et en fait, tu parles avec la plupart des archis, eux, ce qu'ils préfèrent, c'est toute cette phase préliminaire où tu rencontres le client, tu montes le projet, tu fais les plans, tu fais tout ça. Quand ils doivent attaquer le chantier, qu'ils font les suivis,
là, c'est l'enfer.
Là, ça devient complexe. Et donc, du coup, je me suis dit, architecte d'intérieur, ça me plairait beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti dans mon DUST, qui équivaut, pour ceux qui ne savent pas, c'est un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques. Un bien grand mot. En éco-construction. Donc, tout ce qui tourne autour de l'économie et de l'écologie au sein de la construction.
Ouais, c'est ça. C'est ce côté surtout écologique qui t'intéressait.
C'est de montrer aux gens qu'aujourd'hui, on peut faire des rénovations de bonne qualité à des prix pas forcément plus élevés. Tout en étant dans... avoir des méthodes de construction raisonnables, raisonnées.
Parce que t'es pas bête, tu sais que c'est l'avenir aussi.
Ouais, aussi. Et puis aujourd'hui, tu vois, par exemple, tu prends un exemple entre un mur qui est isolé en laine de verre et un mur qui va être isolé en laine de bois. À l'achat, tu vas avoir un écart de prix, on va dire, entre 10 et 30% d'écart, qui va être plus cher pour la laine de bois. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des tests, tu montes un mur en laine de bois, un mur en laine de verre, tu le démontes 10-15 ans après, et ben ta laine de verre, elle va être descendue. Sur le long terme, elle va moins bien tenir, elle va moins être isolante. Donc en fait, au final, ce coût un peu plus élevé que tu vas avoir à l'achat, tu t'y retrouves sur le long terme parce que ça va être mieux sur le long terme.
C'est ça aussi l'architecture, c'est anticiper ce qui va se passer dans 5, 6, 7 ans. Dans un an, on s'en fout, le projet il est encore neuf. Mais dans 10 ans, qu'est-ce qui va devenir et dans quel état il sera?
Bah, ça oui, et ça après notre boulot à nous, c'est d'essayer de faire comprendre ça au client. Parce que lui, le client, il ne voit pas dans 10 ans. La plupart des clients ne voient pas dans 10 ans comment ça va être. Et moi, je le vois, j'accompagne mes clients. Parce qu'aujourd'hui, nous en tant qu'archi, on ne peut pas choisir, en tant qu'archi intérieur, on ne peut pas choisir pour le client le devis, mais on leur propose plusieurs devis et après on a un devoir de conseil où on les aide à choisir, on les aide à lire un devis parce que c'est pas toujours simple de lire un devis et pour qu'ils fassent le meilleur choix et du coup qu'ils comprennent que dans 10-15 ans ça sera plus rentable d'avoir ça.
Est-ce que tu as vu ces bâtiments qui sont montés en imprimante 3D en France?
Ouais, j'en ai pas vu en vrai. Mais ouais, j'ai vu de ça.
C'est tout nouveau, hein, ça.
C'est tout nouveau, mais c'est pareil. On reste encore sur du bâtiment qui est en béton, qui est en tout ça. Aujourd'hui, moi, j'ai des projets qui sont... j'ai vu des projets et je suis des projets qui sont, pour moi, beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus fun.
Yes.
Où ils commencent à faire des crèches, des collèges, des lycées, tout en paille, en ossature bois-paille et tout ça.
Ça, toi, ça te fait plus kiffer.
On a toujours cette truc de se dire... l'histoire des trois petits cochons.
Ouais.
la maison en paille, elle brûle. Et puis, si on souffle dessus, elle s'envole. Alors qu'aujourd'hui, les gens ont dans leur imaginaire qu'une maison en paille brûle. Alors que c'est tellement compressé et tout ça que... Aujourd'hui, les normes au feu sur la paille, elles sont exceptionnelles.
Oui, bien sûr.
Et ça, pour moi, c'est l'avenir. C'est pousser des projets qui sont ambitieux comme ça. C'est pas... parce que tu vois, faire de la maison béton en imprimante 3D... le matériau ne change pas, c'est juste la manière dont on le pose qui change. Donc au final, ok, c'est une belle avancée techno, mais part supprimer de la main-d'œuvre, ça ne fait pas plus de choses.
Là, ce que tu développes finalement, c'est ce que tu revendiques à travers ta boîte.
Ouais,
Ulcan,
c'est un peu comme tu as envie.
ça dépend si on met ta Merloc ou si on met ton...
C'est ça, mais non, c'est plus Ulcan, ouais.
Ouais.
Pour la petite histoire... Vulcain, c'est le dieu grec de la création, c'est les archis.
Bien sûr.
Et j'aimais pas trop le terme vulcain. Je trouvais que ça faisait un peu ch'timi.
Okay.
C'était un peu bon. Et du coup, je l'ai fait traduire dans un vieux dialecte sud-africain, issu d'un village d'une amie à moi. Et ça donne Ulcan.
Et c'est comme ça qu'est donc créée ta société.
Créé Ulcan, ouais.
C'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé entre la fin de tes études et la création de ta société ? T'as bossé un petit peu pour d'autres boîtes ?
Ouais, alors j'ai fait, aujourd'hui j'ai une dizaine de boîtes à mon actif dans lesquelles j'ai travaillé, principalement issu de la couverture et sur mes dernières années de Dust. En fait, j'avais pas envie de faire une passation trop rapide entre la couverture et l'archi d'un coup.
Oui.
Je me suis dit, il faut que je trouve un moyen un peu plus... Ouais, une passation plus douce, quoi.
Yes.
Et en fait, j'ai trouvé un boulot en tant que régisseur et responsable logistique dans un domaine viticole. Et je m'occupais de toute la partie travaux, gestion, suivi de chantier, on trouvait les entreprises et tout ça. Et donc ça, je l'ai fait ça pendant un an sur ma dernière année de Dust. Et ensuite, j'ai dit, il est temps. La passation est en train s'est faite gentiment. J'avais augmenté mon réseau dans les entreprises et tout ça. Et donc du coup, j'ai dit, on se lance et on crée la boîte.
Qu'est-ce que tu proposes à travers ta boîte ? Tu as deux formules, entre guillemets ?
Ouais, alors aujourd'hui, on peut faire tout ce qui est partie plan, visuel, ou quelqu'un qui veut refaire sa salle de bain, par exemple, il ne sait pas trop comment la faire, il nous contacte. Nous, on s'occupe de refaire les plans, de refaire les visuels. Dès qu'il passe par nous, il a accès à tout notre réseau d'entreprises partenaires.
Donc tu dis nous, tu ne bosses pas tout seul ?
C'est parce que... j'ai pour ambition de grossir.
D'accord.
Et c'est en train de grossir. Ouais. En fait, officiellement, je bosse tout seul, mais officieusement, j'ai tellement d'acteurs autour de moi.
Oui, bien sûr, bien évidemment.
D'autres gens qui bossent en freelance avec moi et tout
d'accord.
ça, qu'en fait, on est une équipe. C'est un peu mégalo de dire.
Non, mais t'as raison.
De dire je bosse tout seul.
C'est un projet, tu ne le montes pas tout seul,
c'est
finalement.
Ça.
Voilà.
Aujourd'hui,
tu es l'initiateur de ce projet, mais derrière, il y a du monde qui vient
Quand on va faire une cuisine, t'as la cliente qui est derrière, t'as les entreprises, t'as tout ça. Donc, non, c'est vraiment. Je veux pas avoir cette prétention de dire je suis seul, parce qu'on n'est jamais seul et seul on fait jamais rien. Et donc du coup on a un ensemble, on est une équipe et donc oui, les clients ils peuvent me contacter et de là on va dessiner leur projet, faire les plans, ils ont accès à tout le réseau de professionnels où ils ont des prix, ils ont tout ça, que ce soit sur les poses, les matériaux et tout ça. Et sinon, si les clients, ils nous disent écoutez, moi je me suis trop fait berner pendant des années dans les entreprises, je m'y connais rien, de toute manière, le gars qui va venir poser le placo, il peut me dire un peu ce qu'il veut, s'il pose la plaque à l'envers, je le serai pas.
Bien sûr.
Moi je veux que vous suiviez et que vous faites toute la gestion du chantier. À partir de là, on fait des plans. On s'occupe de trouver les entreprises, de faire plusieurs devis, de les présenter au client. Le client, il prend le devis qu'il veut, il signe. Et à partir de là, on fait tous les prévisionnels, qui intervient quand, pendant combien de temps le chantier va durer. On fait un suivi de chantier toutes les semaines, toutes les deux semaines en fonction du chantier. On fait un rapport au client. On numérise tout, que ce soit les factures, les rapports, les devis, tout, les comptes rendus. Et après, à la fin, les plans et tout, et le client, il récupère tout. C'est-à-dire qu'on peut travailler, par exemple, pour un client hollandais, comme là, ça m'arrive, où le gars me donne sa maison.
Ouais, allez-y.
Il me dit, écoutez, allez-y, on a validé les projets, on a validé tout ça. Moi, je pars, de toute manière, je reviens dans un an, et puis
ouais, c'est ça,
ça
ouais.
Soit fait, quoi. Et en fait, le but dans cette mission-là, que moi, j'appelle la mission complète, c'est beaucoup de préparation avec le client. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive chez quelqu'un, je demande pas le budget. Je dis, expliquez-moi comment vous vivez.
Tu préfères écouter ses envies avant de voir son tarif.
Parce que ta maison, en fait, c'est un peu le reflet de ton esprit, le reflet de ton âme.
Ouais.
Et en fait, moi, je peux faire n'importe quelle maison. Tu vois, ça me dérange pas. Même pour moi, je peux faire plusieurs maisons. Mais est-ce que ça te plaira à toi, tu vois? Est-ce que c'est pas ta manière dont tu vis dans ta maison? C'est pas tout ça. Donc en fait, je demande aux gens qui m'expliquent comment ils vivent, qui me racontent un peu leur semaine type avec les enfants, avec tout ça, comment ils vivent. Et en fait, de là, on arrive à créer le projet autour d'eux et pas autour de moi.
C'est une manière aussi de créer un lien de confiance avec eux.
Ça. Et en fait, à la fin, nous, on connaît tellement bien le projet qu'il peut arriver n'importe quoi sur le chantier. Le but, c'est pas d'appeler le client toutes les 5 minutes en disant « Ah bah mince, la prise électrique, vous voulez la mettre où? Ça vous va si on la met un peu plus à gauche ou pas ?» Le client, il nous a pas payé pour ça. Le client, il a dit pour que nous, on dit à l'électricien « Oui, déplacez-la un peu à gauche, c'est bon. » Parce qu'on sait que ça ira au client. Parce qu'on sait qu'il nous fait confiance. Parce qu'on a étudié le projet, on l'a vachement fait en amont, on a vachement bossé dessus, tu vois.
Là, ça fait un an que ta boîte est lancée, à peu près un an. T'as déjà eu quelques projets. C'est quoi, pour toi, le projet de rêve que tu voudrais dans les 5 années à venir, on va dire?
Moi, le projet qui me ferait... mais c'est comme tous les architectes, comme tous les décorateurs. C'est que j'ai un mec qui me contacte, un client, 300 mètres carrés, et il me dit... vous avez carte blanche. J'adore.
Oui, voilà, c'est la carte blanche finalement.
C'est la carte blanche. Et la carte blanche, en fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que nous, on a ce travail où on arrive à visualiser. Par exemple, tu peux prendre, je sais pas, aujourd'hui, tu prends un papier peint mural un peu fleuri. Je te le montre comme ça, tu vas dire, c'est pas très beau. Sauf que nous, on l'imagine dans un projet, comment on peut l'amener un peu en mode cadre, un peu juste, tu vois, pour créer des profondeurs et tout ça. Et en fait, dans l'ensemble, ça fait très joli. Et y a des clients, aujourd'hui, moi, sur certains projets, on m'a refusé des trucs comme ça parce que le client dit non, ça va faire pas beau. Donc au final, tu vois, t'as toujours des fois un peu ce truc où
je le prends, mais
Après, on est là aussi pour écouter les désirs du client. Et si pour lui, il pense vraiment pas qu'il va aimer, il va pas aimer.
Trouver le juste milieu entre les attentes, entre ta créativité et les obligations qui t'imposent, finalement.
Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, tu vois, par exemple, j'ai un très bon cas. Une cliente qui m'a contacté pour refaire une salle de bain, elle partait pendant 4 mois et elle m'a pris parce que justement, moi aujourd'hui, vu que j'ai un gros réseau de professionnels où ils me font confiance, je les fais bien fonctionner à l'année et tout ça, il y a des deadlines qu'on peut respecter que si tu arrives en tant que particulier, tu ne vas pas passer en priorité. C'est un peu triste à dire, mais malheureusement, c'est un peu comme ça partout. Et la force du réseau est très importante parce que moi, un plaquiste, je vais en connaître 15. Et où je sais que c'est 15 très bons plaquistes. Et donc, j'ai aucun scrupule à les envoyer chez le client. Je sais que ça va être fait nickel, que ça va être aucun souci là-dessus, tu vois. Et donc, la cliente m'appelle, elle part pendant 4 mois de mémoire. On fait la salle de bain et elle m'avait dit une phrase. Elle m'a dit « Surtout, je ne veux pas de bleu dans la salle de bain ». Et je me suis dit « Écoute, ça passe ou ça casse. Si vraiment ça casse... »
On fait quand même du bleu.
Je me suis dit « Si vraiment ça casse, tant pis, je repayerai de ma poche la peinture. » Et en fait, on a fait un plafond bleu. Mais un bleu qui est très très beau, très profond. Et en fait, cette cliente, elle avait beaucoup de tableaux africains et tout ça. Et en fait, c'est un bleu qu'on retrouvait dans toutes ses décos, ses tableaux africains qu'elle avait.
Ça rappelait le reste de la déco.
Et en fait, j'ai emmené le tableau chez mon vendeur de peinture. je lui ai dit, il me faut ce bleu. Et on a refait le même bleu et on l'a mis au plafond. Mmh. C'était pas un plafond de 300 mètres carrés, hein, c'est une salle de bain. Et en fait, la cliente, elle est rentrée. Et elle était.
Donc là, toi, tu stresses, forcé.
Ouais, mais je stressais, mais quand j'ai vu le rendu, je dis non, forcément, elle va adorer. Et en fait, je me souviens, elle a dit, mais je vous avais dit pas de bleu. Je dis oui, mais je lui ai expliqué. Et après, elle m'a dit, mais en fait, vous savez, c'est pas que je voulais pas de bleu parce que j'aime pas, c'est parce que j'osais pas. Et en fait, c'est aussi pour ça que des fois ils nous prennent, c'est parce que nous, on va oser faire des choses là où eux, ils vont pas oser y aller. Mm. Ce qui est normal, tu vois, c'est pas.
Vous allez écouter votre persuasion et même quitte à aller à l'encontre du client parfois ça permet d'avoir de bonnes idées.
C'est ça.
Tout en restant, bien sûr, dans la limite du raisonnable, bien évidemment.
Et au final, la dame, elle a adoré. Et du coup, c'est ça qui est cool, quoi. C'est de se dire, on peut vraiment avoir quelqu'un qui nous fait confiance, c'est top, quoi. Et après, pour la boîte, moi, j'ai envie de grossir et surtout de redorer un peu l'image de l'artisanat. Mmh. Ça fait 8 ans, 9 ans que c'est un peu mon combat quotidien redorer l'image. Tu vois, aujourd'hui, je fais aussi beaucoup de formations pour les jeunes dans mon ancien métier.
Tu transmets pas mal de ton expérience.
C'est important de rendre ce que les gens.
À Dijon et à Tours, c'est ça ?
Ouais. Et aujourd'hui, je leur explique à mes jeunes, je leur dis, vous êtes là, c'est parce qu'un peu. Pendant toute votre vie, on vous a dit vous êtes mauvais à l'école et tout ça, allez dans un métier de l'artisanat. Alors qu'aujourd'hui, si on parle, c'est comme à l'armée. On n'a plus besoin de chair à canon, tu vois. On a besoin de têtes, de personnes qui réfléchissent.
Bien sûr.
Aujourd'hui, comme je te disais, le monde du bâtiment, c'est devenu énormément de normes, beaucoup de choses comme ça.
Ouais.
Donc du coup, il faut avoir des sachants et des gens qui exécutent bien ça.
Ouais, tout à fait.
Et qui ne font pas bêtement ce qu'on leur dit intelligemment, quoi. Ouais. Et donc, je leur dis, allez-y. Parce que on vous a dit toute votre vie, vous étiez trop bête pour aller en grandes écoles, donc aller dans l'artisanat. Et moi, à l'inverse, c'était que quand j'étais à Raoul, que je passais mon bac, on m'a dit, mais pourquoi tu es en artisanat ? T'as le niveau pour aller faire des grandes études, pour partir directement à l'école d'archi et tout ça.
Oui, ouais, bien sûr.
Donc en fait, au final, tu vois, il faut être quoi ? Il faut être juste dans le bon milieu et tu vas et on valide. Non, si t'attends la validation des gens, il ne faut pas. Il faut redonner un peu confiance aux gens, ces métiers de l'artisanat, on a des artisans maintenant qui ont compris qu'il y a trop de boîtes qui ont essayé de berner un peu les clients, de les voir un peu comme des pompes à fric. Et
puis c'est ça, de mettre de côté le côté humain,
c'est
l'humanité
ça.
De ce taf aussi à côté.
Mais les temps changent. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir des contrats, d'avoir tout ça. Les clients sont très regardants, ce qui est normal, parce que les gens surveillent de plus en plus leurs dépenses. Donc c'est de redorer un peu cette image-là. Et je suis en pleine préparation, c'est en train de se faire. J'espère que ça sortira de terre d'ici un an, deux ans, de faire un grand showroom de 400 mètres carrés.
À Nevers, à Bourges ?
Pour l'instant, à Bourges.
D'accord.
Mais pas loin de Nevers, on sera à l'entrée de la route de la Charité. Donc, vous êtes à 45 minutes.
Trois quarts d'heure si on appuie,
C'est ça. Et en fait, ça va être fait sous forme de maison.
Ok.
Où les gens pourront voir le produit pas en forme d'échantillonnage,
mais vraiment à taille réelle,
posé, et faire de cet endroit un lien commun pour les archis, les décorateurs.
D'accord, une sorte de tiers-lieu un petit peu de l'artisanat, finalement.
C'est ça.
Okay.
Et parce que moi, je crois en ça, et je pense qu'il faut qu'on évolue tous ensemble, plutôt que il y a du boulot, il y en a pour tout le monde, et on s'entraide tous. Tu vois, tout à l'heure, j'étais chez un fournisseur de bois. Il m'a dit, Brico Dépôt nous envoie des clients et nous, à contrario, quand on n'a pas les produits sur stock, on en envoie à Brico Dépôt. Donc, tu vois, la concurrence, il en faut parce que c'est ça aussi qui permet aux clients d'avoir les meilleurs prix. Mais faut pas croire, toutes les grosses boîtes, elles cèdent et tout ça. Donc, pour moi, c'est important.
J'aimerais qu'on termine avec un autre sujet, mais qui est très intéressant, c'est le voyage au cœur de ton taf également. Ouais. Alors, j'imagine que c'est au cœur de ton taf, mais ça participe aussi à une opportunité personnelle que tu as eue, c'est de partir en Laponie.
C'est ça. Je suis parti en Laponie suédoise en septembre pour concevoir et designer des chalets.
Comment ce projet il est arrivé à toi déjà ? C'est assez dingue.
On dirait pas, mais les réseaux ont une force. Et même avec 300 abonnés, on dirait pas, mais on est vu. Et en fait, c'est des Français qui sont expatriés là-haut Et eux, ils sont devenus mushers. Donc, mushers, c'est les gens qui font des chiens de traîneau, qui ont des élevages de chiens de traîneau.
D'accord. Oui, bah, en même temps, la pony, je pense que...
C'est
oui.
ça. Mmh. Et donc, eux, ils ont ouvert une boîte là-haut où ils font du mushing, ils font des balades en motoneige, des randos, beaucoup de choses. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est qu'ils font du mushing raisonné. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un élevage de 30 chiens
ouais,
où il
ouais.
faut faire du touriste.
Ouais.
Eux, ils ont 7 chiens.
En mettant
chiens.
De côté la santé des chiens, ouais, etc. C'est ça. Quoi. Ouais.
Eux, ils ont 7 chiens. Ils veulent que les 7 vivent la même aventure chacun,
ouais.
ont les mêmes droits,
ouais.
qu'il n'y en ait pas un qui a un passe-droit et tout ça. Comme on voit souvent dans les gros élevages de 30, il y a un chien qui vit à la maison et les 30 ouais. autres qui sont en chenille à l'année.
Ouais.
Tu vois.
C'est ça, ouais.
Donc ça, ils ne veulent pas ça. Et en fait, moi, je les ai rencontrés une fois à l'époque du côté de Toulouse. Et tu sais, on se voyait par le biais des réseaux, mais jamais on s'était recontacté et tout ça. Et quand j'ai vu qu'ils ont monté leur boîte là-haut, au bout de du coup 4-5 ans qu'ils étaient là-haut, ils ont ouais. monté leur boîte là il y a un an, quasiment en même temps que ma boîte.
Ok.
Et je leur ai envoyé un message en disant super, trop cool projet, bah, je suis content pour vous, quoi.
Ouais, bien sûr,
et
ouais.
Je pensais même pas qu'ils allaient me remettre, tu vois.
Quoi,
ouais.
ouais. ouais.
Et en fait, elle m'a répondu et elle m'a dit « Écoute, j'ai vu que tu as monté ta boîte, ça m'intéresse aussi. On aimerait faire des rénovations dans la maison, tout ça, mais on n'a pas trouvé d'archi bien qui a réussi à nous faire des plans qui nous convenaient, tout ça. »
D'accord.
Donc, elle m'a envoyé tous les plans et tout ça, toutes les photos. J'ai fait des plans. Elle a adoré. Elle a dit « Mais tu nous as présenté des choses que personne... » Il y en a 5 autres qui sont venus avant, personne ne nous avait présenté ça.
Ouais.
Et bah j'ai dit, bah écoute, tant mieux, quoi, si ça te
plaît. Ouais, c'est clair.
Et une semaine et demie après, j'étais en train de faire du vélo, je reçois un appel WhatsApp, je réponds, et je lui demande comment ça va, peut-être qu'elle avait des modifs à faire sur les plans, bah je sais
ouais,
pas.
Ouais, bien sûr.
Et elle me dit, écoute, tu fais quoi dans 3 semaines? Bah je dis, là, comme ça, j'ai pas grand-chose de prévu, je crois, puis au pire, faut voir, je lui dis pourquoi. Bah elle me dit, écoute, si tu fais rien, je te prends un billet et tu viens à moi, parce qu'on a des chalets à faire et on veut que tu découvres l'environnement et que tu designes des chalets en fonction de notre mode de vie.
C'est dingue.
3 semaines après, j'ai débarqué à Luleå et puis voilà.
D'accord. Et donc là-bas, tu as fait combien de chalets? Enfin, c'est
alors,
pas encore fini.
En fait, je suis allé là-haut surtout pour se rendre compte de leur mode de vie,
okay.
qui est totalement différent d'une autre, forcément. Quand il fait moins 37, c'est totalement différent d'une autre.
Ouais.
Moins 37 degrés. Hein. Et en fait, oui, pour voir leur mode de vie avec leurs chiens, comment ils fonctionnent, voir le terrain, voir le
ouais.
soleil, comment il fait. Parce qu'en fait, là-haut, c'est très rigolo. Tu vois, notre soleil à nous, notre soleil de 10h, 10h, 11h, là où il se situe dans le ciel.
Ouais.
Et ben moi, quand j'y étais, il ne montait pas plus haut que ça.
Ouais.
Et après, il était à l'horizontale
et, voilà, ouais.
et il se recouchait. Donc en fait, tu n'as jamais le soleil au-dessus de toi. Et là, on est dans une partie de l'année, je crois, où chez eux, ils doivent faire 2 heures de soleil par jour. Quoi. Donc en fait, c'est voir, prendre en compte toutes ces conditions et tout ça, voir avec eux en temps réel pour les designer directement, voir les modifs et tout ça. Et après, c'est comme tout, c'est une question budgétaire, donc voir comment on fait. Parce qu'on a encore... la mondialisation et le libre-échange sont tellement bien faits que nous, on fait venir du bois de Norvège ou de Suède,
ouais.
et eux font venir du bois d'Ukraine ou d'Europe, de le reste de l'Europe.
D'accord, ah oui, donc...
Et ouais. donc, en fait...
C'est insensé.
C'est
ouais,
ça.
Ouais, ouais.
Là-haut, dans le nord de la Suède, en Laponie, tu payes plus cher ton bois
d'accord.
que si tu faisais venir de France.
D'accord.
Donc, c'est tout... on est en train de gérer l'organisationnel, de comment on fait. Bah, là, tu vois, j'y retourne dans quelques mois... on va pas les monter, on va gérer plus l'aspect encore opérationnel, comment on fait,
okay.
est-ce qu'on refait des modifs et tout ça.
Ouais.
C'est un projet à long terme.
Ça, c'est un projet à combien ?
On essaye d'aujourd'hui de tirer un chalet à moins de 70 000 euros pièce.
D'accord.
Si on arrive à le tirer encore en dessous, c'est bien, tout compris dedans.
Ouais.
Mais en fait, il y a tellement de choses à prévoir là-haut. Par exemple, là-haut, les canalisations d'eau sont à 5 mètres sous terre.
Ouais.
Parce que sinon, d'accord. elles gèlent l'hiver.
Ouais.
Et quand elles remontent, à partir de 2 mètres, elles sont entourées d'une résistance électrique
d'accord.
et chauffées.
Ouais.
Parce
pour
que
encore une fois éviter que ça gèle, ouais, ouais, bien sûr.
C'est
ouais.
ça. Ouais. Donc, t'as
c'est dingue tous ces trucs-là
ouais,
qu'on
ouais.
n'imagine pas parce qu'on est dans un mode de vie qui est totalement différent.
Et puis tu dois gérer l'arrivée électrique qui n'est pas du tout comme là-haut. Bah, eux, ils sont ouais. dans un village, ils sont 3. Hein.
Ouais.
Donc,
un village chez eux, c'est un hameau chez nous. Quoi,
ouais, c'est ça. Ouais. Et une ville chez eux, elle est tellement étendue que c'est ce que nous on appellerait une communauté de communes. Quoi, tu vois
ouais.
T'as plein de trucs logistiques à prévoir et là on ne peut pas se louper parce qu'eux, ils viennent de créer leur boîte. ça fait beaucoup de dépenses dès le début, y a beaucoup de choses à faire.
Mais toi, ça, c'est un projet qui peut t'apporter tellement au niveau de la reconnaissance déjà de tes pairs et de notoriété aussi, de monter un de tes premiers projets
totalement.
En Laponie. C'est...
Ouais, mais totalement. Mais après, en fait,
ça aide.
Là, tu vois, je suis... Là, aujourd'hui, je suis sur deux grosses négociations. Je suis en train d'ouvrir le marché algérien, qui aujourd'hui, on n'est pas trop aidé parce que
l'Algérie et la France, politiquement parlant, c'est un peu chaud. Ouais.
Donc les négociations sont un peu à l'arrêt, on va dire. Et là, en ce moment, c'est pareil. Je suis en pleine négociation pour récupérer un contrat sur un gros chalet à Courchevel de 400 mètres carrés. Bah oui, forcément, ça aide. Ça aidera toujours. Et en fait, moi, je me suis toujours positionné sur ce marché-là un peu atypique. Je dirais pas haut de gamme parce qu'en fait, par exemple, pour certaines personnes, faire une cuisine à 30 000 euros, ça va être une cuisine haut de gamme.
Ouais, bien sûr.
Alors qu'aujourd'hui, tu peux faire des cuisines à 200 000. Mais en fait, c'est même le projet le plus simple, réussir à le rendre haut de gamme, mais pas forcément dans son prix.
Mais dans son aspect.
Dans les matériaux et tout ça.
Ouais.
Et en fait, aujourd'hui, pour 10 000 euros, 15 000 euros, si tu choisis le bon cuisiniste, le bon ébéniste et tout ça, tu peux faire des cuisines au même prix que si tu vas à cuisiner là, par exemple, et qui vont être beaucoup plus fun, beaucoup plus sur mesure, avec des trucs de fou, quoi. Donc voilà. Donc j'ai un peu tous ces aspects-là en ce moment. Et en plus de ça, j'ai lancé avec un ami une appli de bons plans.
D'accord.
Sur le Cher. Et sur la Nièvre, où en fait, à la différence des autres réseaux pour faire connaître les entrepreneurs qui sont payants, qui vont de l'ordre entre 1000 et 2000 euros, nous, on fait ça gratuitement. En contrepartie, l'entreprise doit proposer, par exemple, une remise. Un restaurateur, ça va être un café offert pour deux menus achetés, ou je sais pas, tu vois. Faire des offres. Et en fait... pour les gens de la ville, des alentours, qui puissent bénéficier de ces offres. Et à la fois, ils peuvent bénéficier de ces offres et les entreprises se font connaître. Parce que, tu vois, moi, demain, je suis sur le...
Oui, c'est un donnant-donnant, en fait.
C'est ça.
T'as des avantages et en même temps, ça fait de la pub pour les entreprises.
C'est ça. Et moi, tu vois, aujourd'hui, pour les un an du Lacan, je propose des offres à moins 20% sur quasiment l'ensemble des prestations. On est à moins 20% pour fêter les un an du Lacan. Et aussi pour aider, pour montrer aux entrepreneurs que regarde, même moi, je fais des remises alors que normalement mon métier ne devrait pas forcément en faire. Tu vois.
Bien sûr, bien sûr.
Et je pense que oui, on a aussi ce rôle-là en tant qu'entrepreneur d'aider les gens à dépenser moins.
C'est quoi le nom de cette appli ?
Ça s'appelle Les Bons Tuyaux.
Les Bons Tuyaux, ok.
C'est ça.
Et c'est donc, disponible sur,
sur le site internet Les Bons Tuyaux. Les entrepreneurs peuvent directement s'inscrire, c'est gratuit. Et en plus de ça, on propose... une grosse réunion tous les mois pour les entrepreneurs,
ouais.
où on se rencontre tous, ça nous permet de mettre des visages sur des noms. Et c'est libre à chacun de proposer. Moi, tu vois, toutes les semaines, je propose une petite réunion d'une dizaine, quinzaine de personnes. Ça peut être un peu partout, hein. Ça peut être dans un bar le soir, dans un resto le midi, où là, on va parler un peu entre nous, quoi. Parce que c'est important de... En fait, quand tu recommandes quelqu'un, tu le recommandes parce que tu le connais, tu sais comment il bosse,
ouais, sûr,
et tu sais que ça vaut le coup. Parce que recommander quelqu'un, tu prends aussi un risque.
Bah,
parce
c'est ça.
Que
c'est
tu mets un peu ton
passer
nom
pour un blaireau si ça va pas.
Bah, c'est ça.
C'est évident.
Et donc, du coup, non, on fait. On a lancé ça et aussi, tu vois, c'est important. Moi, quand je me suis installé, ça fait un peu les gars qui font. Les business angels qui font ça, mais quand je me suis installé, j'ai réellement commencé ma boîte, j'avais 150 euros.
Ouais.
Parce qu'il m'est arrivé différentes choses dans ma vie et tout ça. Et j'ai commencé la boîte avec 150 euros. Et c'est, tu te dis, comment t'investis ces 150 euros
Où est-ce qu'il faut bien les mettre pour être sûr
Être sûr d'être vu et tout ça.
Ouais.
Et en fait, tu vas dans n'importe quel club d'entrepreneurs. Pour essayer d'être vu. Donc ici à Nevers, on a le Quoi qui se passe, on a le club de rugby et tout ça. Faut compter au moins 1000, 1200 euros l'adhésion.
Oui, 150 euros, ça va pas le faire.
Bah ouais. Bon. Et donc en fait, c'est de se dire comment tu fais. Et tu vois, moi j'ai plein d'amis, des jeunes qui étaient à Raoul Folreau. Un jeune d'ailleurs, un jeune neversois, Thomas Petinato, qui avait monté la boîte E4 édition. Qui était une boîte de jeux de société.
Oui, on en avait parlé ici.
Ouais,
ils avaient fait une cagnotte pour.
Bah ouais. Et son projet était dingue et tout ça. Et le problème, c'est que c'est comme tout. Il avait, Après, je ne parle pas en son nom, hein, loin de là, mais j'imagine qu'il n'avait pas des milliers d'euros à dépenser pour faire du réseautage, pour faire tout ça, pour faire une com, pour être connu ultra rapidement et tout ça.
Ouais.
Et en fait, j'ai trouvé ça bête que la boîte ferme parce que le projet était trop cool. Et c'était local, c'était tout ça. Et en fait, quand j'ai vu ça, c'est un peu lui qui, sans le savoir, où je me suis dit, non, mais il faut qu'on fasse un truc pour tous ces... Quand je dis jeune entrepreneur, c'est une boîte qui vient d'être créée.
Oui, pour ces personnes qui viennent de se lancer et qui ont besoin d'un coup de main.
Et qui ont besoin d'un coup de main, parce que je me dis, c'est ultra important. Parce que ces petites boîtes de demain peuvent créer
des emplois
20,
futurs,
30 emplois plus tard, tu vois.
Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Donc, cette appli, elle s'appelle Les Bons Tuyaux. On peut la retrouver sur le site internet, donc Les Bons Tuyaux.
C'est ça.
Et elle est disponible sur tous les Apple Store, les Google Store, etc.
C'est ça, ouais. On a l'appli, ouais, pour les...
Et puis, tes aventures à toi, on va terminer là-dessus. Où est-ce qu'on peut les suivre? Il y a les réseaux sociaux, j'imagine.
Moi, il y a mes réseaux sociaux, donc Ulcan Architecture et mon site internet, ulcanarchitecture.fr. Où là, on a tout. Alors, on est en train de restructurer toute l'image de la boîte.
Okay.
Pareil, moi, je bosse à fond dans le local. Donc, c'est une jeune graphiste de Nevers qui est en train de me...
Qui s'appelle...
Je peux la citer, c'est Margot Morel, ancienne élève d'ici.
Qu'on connaît bien ici sur Beck.
Et donc, du coup, qui est en train de me refaire toute l'image de la boîte et tout ça. Et donc, du coup, là, les réseaux, en ce moment, on ne publie pas énorme, mais ça va revenir avec plein de beaux projets et tout ça. Et après, sur mon site internet, vous retrouvez tout, les coordonnées, tout ce qu'il faut pour tout faire.
Ulcan, U-L-C-A-N.
Non, U-L-K.
U-L-K-A-N, pardon.
C'est ça.
U-L-K-A-N, Ulcan, pour aller suivre toutes ces aventures. Merci beaucoup, merci à toi. Merci,
merci à vous, c'est gentil. Bah, merci à vous, Bac FM, parce qu'on a dit qu'on se tutoyait.
Bien sûr, bien sûr. Merci, à bientôt.
À bientôt.
Voilà, Bac FM, tout de suite, c'est le retour du son pop rock. Je vous souhaite un très très bon week-end et puis on se retrouve lundi. Bon week-end.